Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel. Alors, nous sommes entrés dans l'église, et là, nous sommes arrivés à l'heure où c'était la messe de 11h, en matinée. Donc, nous sommes entrés, et je me suis dit, je vais être fidèle avec les gens. Je suis resté dans la nef avec les gens, et j'ai voulu vivre cette Eucharistie d'une autre façon. Ça fait plus de 44 ans que je suis dans le cœur. Et là, j'étais dans la nef. Et je me dis parfois, c'est important d'être dans la nef. Je ne l'ai pas fait souvent. C'est important d'être dans la nef pour voir ce que les gens voient. Et comment on se comporte, comment nos gestes sont perçus, comment nos déplacements sont perçus. C'était un prêtre d'un certain âge qui a présidé la messe. Il l'a très bien fait. Et je me dis, c'est bien d'avoir une liturgie qui se tient, une liturgie qui commence et qui se termine. Une liturgie qui fait qu'on ne se cherche pas. Si celui qui préside se cherche, eh bien tout le monde va chercher. Parce que tout le monde le regarde, c'est lui qui préside. Alors quand quelqu'un ne se cherche pas et qu'il est là, pour rassembler l'Assemblée, eh bien, nous célébrons l'Eucharistie dans un rythme que nous connaissons. C'est une personne qui allait lire la première lecture, une personne de l'Assemblée. Le prêtre nous a proclamé l'Évangile, nous avons entendu son homélie, il a donné un enseignement adapté et substantiel à l'Assemblée. La cérémonie a continué, la bénédiction finale, la communion, il y avait quand même beaucoup de gens. Moi, je pense qu'il y avait plus de 100-150 personnes qui étaient dans cette église à ce moment-là. Et c'est sans arrêt, vous savez. Quand ces gens partent, d'autres arrivent. C'est connu. Les gens connaissent Saint-Louis d'Antin. J'ai une amie qui est dans un autre pays, un pays des îles, un pays des Antilles. Et lorsqu'elle se rend à Paris, elle se trouve toujours un hôtel à deux pas de Saint-Louis d'Antin, parce qu'elle veut prier chaque jour lors de l'Eucharistie et se confesser probablement. Donc nous avons pris le temps de vivre avec tout le monde l'Eucharistie. C'est pas le temps de se promener, là. Alors, ensuite, on a regardé ici et là ce qu'il y avait dans l'église. C'est une église de piété populaire. Vous avez, à mon avis, presque toutes les statues et les dévotions que nous connaissons dans le monde. J'ai vu le petit enfant Jésus de Prague, à un moment donné, au-dessus une Vierge qui me paraissait être Notre-Dame du Sacré-Cœur. En tout cas, elle y ressemblait. Ensuite, vous avez Saint-Antoine de Padoue, vous avez Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Sainte-Bernadette, tous les saints sont là. Il y a même des icônes. Vous avez de très belles toiles aussi qui représentent les différentes scènes évangéliques. Et nous avons continué notre parcours. nous sommes sortis non pas par la porte d'entrée, nous avons continué en profondeur et là nous sommes arrivés dans la section des pénitents. Plusieurs personnes, des gens de tous âges, des jeunes, hommes, femmes, qui étaient là et qui attendaient de pouvoir rencontrer le prêtre pour vivre le sacrement de la réconciliation. Des pénitents, des vrais pénitents, ça prie. Et lorsque je suis passé dans cet espace de la pénitence, je peux vous dire que je demandais au Seigneur de tout mon cœur, de tout mon être, de les éclairer, de leur donner la lumière, de leur donner la force. Vous savez, on peut prier sans que personne s'en aperçoive. On traverse des lieux, on voit des personnes, on rencontre des gens, personne s'en aperçoit, mais à l'intérieur, nous prions. Je pense que les prêtres sont comme ça aussi. Ils prient, ils portent, nous portons avec le Christ. Nos frères et sœurs, ces pèlerins qui, comme nous, sont là en attente et qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qu'ils rencontrent dans le sacrement du pardon. Bien sûr, le Seigneur a choisi ce prêtre, identifiable avec son histoire à lui, ses mots à lui, son expérience à lui. Mais lorsque le pardon nous est accordé, c'est Jésus qui nous pardonne. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne. Ce sont les paroles du prêtre. Ce n'est pas le prêtre en personne lui-même qui pardonne, c'est le Christ qui, à travers lui, pardonne les péchés. Alors l'espace des pénitents, ça m'a touché, ça m'a touché. Et là, je suis allé voir la dame qui est à l'accueil parce que je voulais m'enquérir d'une information parce que j'ai déjà rencontré pour l'émission Un temps pour parler les deux curés qui ont été à Saint-Louis-d'Antin, le précédent et celui qui est encore là. Donc je voulais savoir s'il était toujours là. Donc, elle nous a donné les noms et j'ai vu que celui que je connaissais, le dernier, était toujours là. Alors, il y avait une photographie, j'ai dit, mais je le vois sur la photographie. Alors, elle s'est levée, elle a dit oui, oui, oui. Elle a montré du doigt le curé et les autres prêtres, elle les a identifiés. Et je lui ai dit, bon, il est toujours là. Et là, elle a répondu ceci, elle a dit, on ne veut pas le laisser partir, on ne le laisse pas partir. Alors c'est parlant. Quand quelqu'un dit quelque chose sur un prêtre de cette manière, on ne veut pas le laisser partir, ça veut dire qu'il l'aime. C'est une manière de dire on l'aime notre curé. On l'aime, on est bien avec lui. Oui, ça fait quelques années, mais on est bien avec lui. On est capable de passer encore beaucoup de temps avec lui. Il est bon pour nous. Il s'occupe de la chapelle, il s'occupe de l'église, il s'occupe de Saint-Louis-d'Antin, il s'occupe de ses confrères, il était au centre, il s'occupe de ses confrères. C'est cela, un pasteur. Le pasteur s'occupe de ses brebis et de ses frères et de ses sœurs et de tout le monde. Alors, on veut le garder. On sourit et on salue la dame. Et je la remercie. Alors, on continue. Et à Saint-Louis-d'Antin, il y a différents espaces. Je vous ai parlé de l'espace des pénitents. Ce mot-là m'est venu parce qu'il y a des espaces où on a greffé à la fois ce que j'appellerais soit l'enseignement ou d'autres éléments culturels. Il y a l'espace Bernanos. Bernanos est un écrivain français, écrivain croyant français. Alors, il y a l'espace Bernanos. Et on voit que dans cet espace, eh bien, on y invite les gens, soit pour des enseignements avec des conférenciers, ou soit pour d'autres éléments qui sont d'ordre artistique. Il peut y avoir un concert, par exemple, du chant, d'autres choses de ce genre. Alors, c'est intéressant de voir une paroisse un peu particulière, tellement particulière. C'est une paroisse de prière, une paroisse d'adoration, une paroisse de réconciliation dans le sacrement, mais c'est une paroisse aussi qui propose des activités culturelles et des activités pour faire avancer les gens, pour les nourrir autrement, mais les nourrir vraiment par les enseignements de l'Église. Alors nous allons quitter ce lieu de Saint-Louis-d'Antin et nous allons nous diriger vers une autre table qui est essentielle, c'est-à-dire la table du repas du midi. Les carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet. Vous entendrez l'intégralité des 13 monologues que j'ai écrits sur des personnages fictifs ayant vécu autour de 60 ans après Jésus-Christ. Chaque personnage est en lien avec les évangiles ou lettres de saint Paul. Dans le rôle de l'aveugle de naissance, Vincent Champoux, sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte, Denis Veilleux. Aujourd'hui, l'aveugle de naissance. Narration, Vincent Champoux.
J'ai souvent entendu... « Attends, tu n'as encore rien vu. Comment aurais-je pu le faire alors que je suis né aveugle? J'ai tout appris autrement, comme mes semblables. J'ai dû peu à peu me détacher des bras de ma mère pour apprivoiser tout ce qui m'entourait. Les lieux, les choses, ce qui est à l'intérieur, ce qui doit rester dehors, tout quoi. Je me laissais guider par la voix, le son, les bruits que j'ai fini par connaître comme je respire. C'est étrange comme les mouvements de la vie sont simples et se répondent. Si mes frères faisaient tomber une poterie, je savais que des voix humaines allaient exploser après le fracas. Viendrait ensuite une petite raclée et après des pleurs et ensuite encore des murmures. Privé de la vue, on est comme un poisson de nuit dans son lac. On sillonne, on va partout et parfois bien mieux que si on voyait. De fait, la peur ne nous retient pas, elle n'existe tout simplement pas, ce qui fait qu'elle ne peut nous empêcher de nous rendre là où nous voulons. Bien sûr, nous avons besoin d'aide, d'un mot parfois, d'une parole qui nous réveille. Un aveugle né est en quelque sorte quelqu'un qui dort toujours éveillé. C'est mon histoire, jusqu'à l'âge d'environ 25 ans. Là, j'en ai le double. C'est un exploit, dit-on. Il y a belle lurette que mes parents ne sont plus, et le reste de la famille a pris chacun son bord. Deux frères à Damas, une sœur en Égypte, une autre à Tyr et le cadet à Rome, la ville impériale. Je me demande comment il fait celui-là pour vivre dans un lieu où le monde est si bizarre. Il m'a fallu expérimenter une certaine mort à la fin de la première moitié de ma vie pour que je découvre le monde autrement. À son retour du marché, lorsque ma mère me rapportait dans le détail ce qu'elle avait pu voir, j'avais en tête plein de choses qui ne ressemblent finalement pas à ce que je découvre maintenant chaque jour. Tout est différent. Les œufs comme les figues, je n'avais pas de difficulté à les distinguer, même aveugle. Mais les couleurs, ça, ce fut une révolution. La première fois que j'ai vu un arbre, j'ai pensé que c'était une personne. Je m'étais pourtant si souvent appuyé contre le tronc des grands pins auparavant. J'aimais sentir leur vie. Et quand j'arrivais à saisir les branches, il me semblait palper des bras qui montaient. Je faisais de même avec mes frères et mes sœurs. Lorsqu'ils m'amenaient avec eux, parfois je les serrais contre moi. Ils se débattaient alors pour se délivrer de cette pression qui leur était désagréable et me planter là, seul au milieu de rien. Assis sur des sols rocailleux, j'attendais la compagnie des bêtes qui passaient, parfois des chiens, le plus souvent des chats, tout ce qui rampe, quoi. Ma mère exigeait inlassablement que je me redresse en prenant un mur comme appui. Ainsi, je deviendrais un homme droit comme un mur et non pas un homme tordu comme un arbre qui prend toutes sortes de postures. Moi, je préférais quand même les arbres. Un mur, ça n'a pas de vie. Un arbre, oui. Un après-midi venteux, alors que, selon mon habitude, je prenais un peu l'air, j'ai entendu près de moi des hommes se plaindre du sable qui s'infiltrait dans leurs yeux, puis s'étonner d'apercevoir une foule grouillante monter vers le puits du village. L'émotion a monté d'un cran, quand l'un d'entre eux a distingué parmi eux l'homme de Nazareth. S'il y a une chose que je n'aime pas, ce sont les morts. Ça n'a pas de vie. C'est raide et c'est tout froid. Je ne peux tolérer leur contact. Rien que d'y penser, j'ai des frissons sur tout le corps. Je sais d'où ça vient. Cela remonte au décès de ma grand-mère. Voulant lui faire sa dernière toilette, l'esprit tranquille, ma mère m'avait installé près de son lit. Quand elle a voulu soulever le corps de sa mère, celui-ci a basculé légèrement et des bras flasques me sont subitement tombés dessus. Ne sachant pas ce qu'était cette masse, et encore moins d'où elle venait, j'ai hurlé d'épouvante. Ma mère a tenté de me rassurer en m'expliquant ce qui était arrivé, et que ses frères se chargeaient justement d'emporter le corps dans son suaire. L'effroi ne m'a pas quitté, et mon sang était toujours glacé dans mes veines. Ce froid-là a été inventé pour faire peur. Bon, revenons à ce fameux après-midi venteux où je m'apprêtais à suivre le mouvement général pour aller à la rencontre de l'homme de Nazareth. Tous voulaient le toucher ou effleurer sa tunique au point que les compagnons de sa suite répétaient sans cesse « Faites de la place, laissez-le avancer, vous allez l'écraser ». Mais c'est bien connu, quand les choses vont de travers, il n'est pas facile de les ramener à l'endroit. À l'époque, j'avais autour de 25 ans. Je n'étais pas marié. J'allais seul comme un vagabond dans le village où tout un chacun me racontait ses histoires. Comme je ne voyais pas, j'étais tout ouïe à ce qu'on voulait bien me dire et rien d'autre ne me trottait dans la tête. Ça se ressemble, les mots, vous savez. Le temps qu'il fait, celui qu'il fera, la pluie, le vent, le soleil qui brûle tout, les chicanes, les mariages, les voleurs, les rabbis. C'était avec l'évocation extérieure de ce monde qu'il ne m'avait pas été donné de voir, que je vivais ma vie. Toujours est-il que je n'avais pas encore bougé des marches du puits lorsque l'homme de Nazareth est venu à moi. On me l'a dit après, il paraît que j'avais l'air de me protéger de quelque chose. Paraît-il aussi qu'il m'a scruté intensément alors qu'on le poussait pour qu'il avance. C'est là que ces hommes ont parlé encore plus fort. « Mais arrêtez donc, vous ne voyez pas qu'il veut regarder quelqu'un ?» J'ai senti une présence, mais je ne pouvais douter que c'était devant moi que l'homme qui faisait marcher des foules s'était arrêté, d'autant que mon attention avait été détournée par les murmures agacés de certains qui maudissaient la poussière que le vent leur flanquait au visage. D'autres laissaient savoir qu'ils n'appréciaient pas qu'il s'arrête ainsi. « Il veut peut-être de l'eau, » s'est hasardée une femme. Sa voisine a répliqué « Non, il regarde notre aveugle. » Et là, j'ai entendu comme des corbeaux qui répétaient « Quoi ? Quoi ? Quoi ?» C'était bien de moi qu'il s'agissait. Je me suis mis à trembler et je me souviens que des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Moi, je vivais les choses comme dans un rêve. Eh oui, un rêve d'aveugle. C'est alors que l'homme de Nazareth m'a demandé « Il y a longtemps que tu souffres ainsi ?» Ma réponse a été spontanée. « Mais je ne souffre pas, moi. » De nouveau, ceux qui entendaient se sont mis à faire les perroquets. « Quoi, je ne souffre pas, je ne souffre pas. » Le Nazaréen a mis sa main sur une épaule et j'ai entendu son rire. Un rire pur qui m'a fait du bien. Puis il m'a demandé gentiment « Cela ne te fait pas souffrir de ne pas voir ?» Je lui ai répondu que je ne manquais de rien et qu'on m'avait appris à me tenir droit. Tout le monde a éclaté de rire car j'étais toujours recroquevillé aux marches du puits. L'homme de Nazareth a ri aussi. Je l'ai senti à sa voix lorsqu'il m'a demandé « Aimerais-tu voir avec tes yeux comme moi je te vois ?» Là, ma timidité est montée carrément d'un cran. Surtout qu'autour de moi, les corbeaux et les perroquets s'étaient brusquement tus. J'ai dû éclaircir ma voix tout en me redressant pour arriver à lui dire « En fait, j'aimerais juste voir toi. » Sa réponse n'a pas tardé. « Que la lumière soit. » Là, j'ai tremblé plus que jamais et mes yeux se sont mis à brûler comme si le feu les touchait. Je me suis mis les mains devant et doucement, ah oui, j'entendais battre mon cœur. J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert ce regard que je n'oublierai jamais, jamais je vous dis. Voir ça une fois dans sa vie, et on peut mourir sur le champ. Lui, il ne disait rien, mais tout autour, j'entendais « Est-ce qu'il voit ?»« Oui ou non ?» Moi, j'étais sans voix. C'était trop beau. Ensuite, l'homme de Nazareth s'est dirigé vers la synagogue. Agissant par réflexe, un homme dont la voix m'était familière m'a pris par le bras pour me conduire avec lui. Mais désormais, je voyais tout. Je le voyais, lui. Je les voyais tous. C'est pour ça que je dis que ce jour-là fut comme une mort pour moi. Non seulement je peux entendre les histoires qu'on me confie, mais j'en vois la scène maintenant. Rien ne m'échappe plus. Pas drôle quand il s'agit d'un ivrogne qui bat sa femme et ses enfants. Difficile aussi d'être témoin d'un vol quand le crime crève les yeux. Troublant, les ébats à peine cachés dans le fond des cours en plein Shabbat. C'est tout cela qui fait à présent mon existence. Aveugle de naissance, je suis devenu comme un mort qui voit tout. Et ce n'est pas toujours commode à vivre. Je vous le dis, j'étais épargné de la peur, et depuis ma guérison, la peur est devenue mon ombre. Vous vous en souvenez, j'avais bien répondu à l'homme de Nazareth « J'aimerais juste te voir, toi. » Heureusement, depuis quelques jours, quelque chose de neuf s'est produit. Et là, je recommence à vivre. C'est vrai. L'apôtre Matthieu est venu dans le village. Il parle au nom de l'homme de Nazareth. Il a dit que ce dernier était le Messie et que c'était lui qui l'avait envoyé. Je frissonne encore juste à me le rappeler, nous affirmer qu'il était redevenu vivant après qu'on l'eût crucifié. Dur à croire, non? Mais là, l'apôtre nous l'a dit avec une telle force que mes yeux se sont ouverts comme jamais. Il a ajouté que le Messie avait annoncé qu'il se montrerait dans la personne des pauvres, des prisonniers, des malpris, des étrangers, des malades. Qu'un verre d'eau donné à un petit serait comme si on le lui avait donné à lui. Oui, c'est vraiment cela. Ce que tu fais aux petits, C'est à moi que tu le fais. Et moi qui voulais seulement le voir. Je comprenais tout maintenant. Depuis que j'ai entendu ces paroles, j'ai moins peur. Surtout de moi. On a peur des autres, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. On craint leurs mains, leurs regards, leurs paroles, leurs gestes, leurs arrivées, leurs départs. On a tout le temps peur. Que la lumière soit, m'a dit l'homme de Nazareth. Je n'avais jamais pensé qu'il faudrait tout ce temps pour que la flamme arrive sur le chandelier. Maintenant, tout est clair dans ma maison, dans mon village, dans mes pensées. C'est bien mieux quand c'est moins pire. Ça ne veut pas dire que je suis redevenu aveugle et que je ne vois pas ce qui se fait. Je vois différemment, mais une chose est claire. L'enseignement de ma mère ne me quittera jamais. Être droit comme un mur. Si c'est bon pour moi, ce doit l'être aussi pour les autres. Entende celui qui a des oreilles pour entendre. C'est drôle. Je viens de prendre pour moi les paroles de l'apôtre Matthieu quand il est passé au village.
Vous venez d'entendre « L'aveugle de naissance », la deuxième d'une série de 13 émissions intitulée « La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales », texte et musique Denis Veilleux, narration Vincent Champoux, à la technique Yannick Caron, réalisation Jacques Leblanc.